Bonsoir. Les députés et la société civile de l'Équateur se disent opposés à la décision du gouvernement de relocaliser momentanément les ex-combattants rwandais FDLR à Irébou dans la province de l'Équateur. Ils affirment redouter que la présence de ces derniers n'accentue l'insécurité dans cette province. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec Franklin Tchamala, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Franklin Tchamala.
Bonsoir mon frère Guy.
Fabien Mungunza, il est président de la coordination de la société civile de la province de l'Équateur. Bonsoir Fabien Mungunza.
Bonsoir, bonsoir mon frère.
Et Jean-Jacques Wondo, analyste politique et expert en questions militaires. Bonsoir Jean-Jacques Wondo. Voilà, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le regroupement des députés nationaux de l'Équateur disent non à la délocalisation des éléments des FDLR pour cette province. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration mardi dernier au Palais du Peuple. S'adressant au gouvernement congolais, ces élus font savoir que cette province est déjà exposée à plusieurs problèmes de sécurité pour ajouter la problématique des FDLR. Pour cette raison et tant d'autres encore, ces députés recommandent au gouvernement de revenir sur sa décision. Nicolas Akpanza, président du caucus des députés de l'Équateur, l'explique au micro de Mimi Ngumba Moulongo.
Sur le plan sécuritaire, l'opinion tant nationale qu'internationale n'ignore pas les atrocités commises par ces mouvements politico-militaires à l'est du pays. À ce point de vue, la décision du gouvernement de la République relative à cette relocalisation n'est pas bien réfléchie, car notre province connaît déjà plusieurs problèmes d'ordre sécuritaire, notamment les réfugiés centrafricains se trouvaient nombreux sur le sol de notre province, avec les conséquences négatives sur la vie des autochtones. La précarité de la situation de la province suite au dossier Enyele, les récents refoulés du Congo-Brazzaville sont en grande partie les ressortissants de la province de l'Équateur devant être replacés dans les provinces. De nombreux conflits de terres qui débouchent sur les affrontements meurtriers entre communautés sont identifiés dans toutes les parties de la province. La province de l'Équateur, plus précisément Irébou, ne dispose pas d'une base militaire pour fonder la relocalisation des éléments FDLR, alors que les deux grandes bases militaires dont dispose le pays se trouvent à Kamina et à Kitona.
Le gouvernement qualifie de fausses les informations qui circulent au sujet de la relocalisation des FDLR. Pour Lambert Mende, la relocalisation sur le territoire congolais de ces rebelles est une étape qui permettra de les identifier avant d'envisager leur rapatriement. Le porte-parole du gouvernement s'exprimait ainsi lors de son point de presse le 17 juin dernier à Kinshasa. Lambert Mende répond au micro d'Emmanuel Elameji Wakabedi.
On ne voit pas très bien comment des actions préalables pour identifier les gens, pour vérifier s'ils sont volontaires au retour. Si nos compatriotes qui sont parmi eux, surtout les femmes, sont d'accord de les suivre dans leur pays, comment on peut faire ça comme ça, par un coup de baguette magique? On arrache les armes, puis on renvoie, et c'est à la seconde là qu'on va faire toutes ces vérifications. On a besoin d'un lieu précis pour le faire. On a tenté en 2008 de renvoyer 1800, ce qu'on appelait une terre à Amoué, etc. On les a regroupés trop près de la frontière, je crois Kasiki. Et avant même qu'on réalise l'opération de rapatriement, ce camp a été attaqué par une force soi-disant inconnue, mais on peut bien suivre le regard. Ce camp a été attaqué, ces gens ont été démantelés, et on a continué à nous accuser d'entretenir ces gens-là. Donc on a estimé qu'il fallait que ces opérations d'identification se fassent loin de la frontière. Et le gouvernement a choisi une base militaire, quelque part. Et vous croyez que pour qu'un gouvernement envoie des gens dans une base militaire, il doit négocier avec... La base militaire est une propriété du gouvernement. Et quand les formalités seront terminées, la vocation de ces gens n'est pas de rester en République démocratique du Congo.
Fabien Mungunza, je rappelle que vous êtes président de la coordination de la société civile de la province de l'Équateur. Pourquoi vous vous opposez à la relocalisation des FDLR à l'Équateur?
Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que la population de l'Équateur garde une amère expérience de leur passage à l'entrée de la FDL. Nous avons vu commettre des massacres jamais connus dans notre province. Et en plus de cela, l'expérience connue par nos frères et sœurs du Sud Kivu et du Nord Kivu nous renseigne davantage. Ces gens-là sont reconnus comme étant un groupe armée illégitime, responsable de violations massives des droits de l'homme dans cette contrée. Et donc, les ramener ici chez nous, dans une province qui connaît déjà beaucoup de problèmes sécuritaires. Nous estimons même de la part du gouvernement que c'est imprudent, parce que le gouvernement risque d'élargir leur champ d'action qui va partir désormais de l'Est à l'Ouest, et il va encore être en difficulté pour pouvoir les contrôler. Donc nous croyons, monsieur le journaliste, que cette position du gouvernement ne nous semble pas être mûrement réfléchie.
Oui, monsieur Fabien Mungunza, vous dites parmi les raisons qui vous poussent à vous opposer à cette décision, c'est notamment l'expérience du passage de ces FDLR lors de l'entrée de l'AFDL. Et là, c'était dans un contexte de guerre. Maintenant, là, on n'est plus dans ce contexte de guerre. Pourquoi continuez-vous à avoir peur?
Non, monsieur le journaliste, nous n'avons relevé là qu'un seul aspect. L'aspect lié notamment à la sécurité. Mais les conséquences sociales sont dramatiques pour notre province, du fait de leur passage. Prenons l'exemple de violations des droits humains. Ils ont dû prendre des filles pour s'en servir comme esclaves sexuels. Ils ont contribué à l'augmentation du taux d'infection du VIH-Sida. Et bien d'autres problèmes, monsieur le journaliste. Et donc, lorsque on s'émet et on réfléchit mûrement, on ne peut pas vraiment accepter que ces gens nous reviennent encore dans la province de l'Équateur. Et en plus de cela, nous devons travailler de façon professionnelle, monsieur le journaliste. Le gouvernement n'a mené aucune étude sérieuse d'évaluation de l'impact social, économique, environnemental et sécuritaire de leur implantation dans la province, pour pouvoir se permettre de prendre certaines mesures pour atténuer la situation. Ça n'a jamais été fait. Comment on peut se réveiller un matin et décider qu'on puisse relocaliser ces gens-là à l'Équateur sans au préalable avoir mené une étude assez approfondie? Donc nous croyons que ce n'est pas normal. Si le ministre estime que les contrôler, les cantonner au voisinage de la frontière peut poser un problème, mais nous avons la UNESCO. La MONUSCO peut se charger de la sécurisation de ces camps où on va les regrouper et on va les examiner pour pouvoir décider de leur sort par la suite. Nous pensons que cette raison-là avancée par M. le ministre ne tient pas debout.
Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, qui justifie cette décision par le fait qu'il faut éloigner ces rebelles des frontières de l'Est afin de réussir les opérations préalables qui consistent notamment à identifier ces personnes, vérifier si elles sont volontaires au retour.
Oui, monsieur le journaliste, j'ose croire que vous avez observé, comme moi, comme tous les autres observateurs, que ce groupe-là ne cause plus de tort au Rwanda. Mais ils s'attaquent plutôt aux populations congolaises. C'est comme s'ils ne sont même pas pressés de rentrer chez eux. Et donc, chez nous, il y a un adage qui dit « Un morceau de bois dans l'eau ne deviendra jamais crocodile ». Ces gens-là ont grandi dans la culture de la violence. Et on ne peut pas, en un clin d'œil, faire en sorte qu'ils puissent changer et qu'ils deviennent pacifiques, monsieur le journaliste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit les retourner au Rwanda, leur pays. Et donc, nous pensons que cette décision-là, ce projet-là, nous paraît inopportun.
Monsieur Fabien Mungunza, vous estimez que ces rebelles devraient être rapatriés dans leur pays d'origine. Selon le gouvernement, le rapatriement de ces personnes ne peut se faire que suivant une procédure qui implique une tripartite entre la RDC, le Rwanda et le HCR. Et donc les choses ne se font pas automatiquement. Il faut respecter, n'est-ce pas, certaines procédures consignées dans les droits internationaux.
Oui, monsieur le journaliste, mais ce système de deux poids, deux mesures, nous n'arrivons pas à nous l'expliquer. Mais les forces du M23 qui sont réfugiées au Rwanda, les membres de ces forces-là qui veulent rentrer au pays, on a exigé de notre gouvernement le vote et la promulgation d'une loi d'amnistie. Ça a été fait. Et aujourd'hui, nous assistons à la mise en œuvre de cette loi. Ces gens peuvent rentrer directement. Est-ce qu'on leur a demandé de s'éloigner d'abord du Rwanda et de l'Ouganda parce que ces pays sont frontaliers de la République démocratique du Congo avant qu'ils ne reviennent chez nous. Comment on peut demander une chose et son contraire à la fois quand il s'agit de la République démocratique du Congo ou de l'Ouganda et du Rwanda? C'est pas possible, messieurs.
Voilà, selon le porte-parole du gouvernement toujours, Irébou est une base militaire et c'est dans cette base que les FDLR seront envoyés. Et il ajoutait que des questions comme celle-là, des questions aussi stratégiques que celle-là, le gouvernement n'a pas à négocier avec qui que ce soit.
Non, bon, je comprends bien la position de monsieur le ministre. Mais monsieur le ministre doit être renvoyé à l'explication étymologique du mot ministre, monsieur le journaliste. Ministre signifie serviteur, serviteur de la population. Et donc un gouvernement qui se veut légitime, qui se veut démocratique, doit être à l'écoute permanente de la volonté de sa population. Et donc se comporter de cette façon-là, c'est faire plus que, n'est-ce pas, à l'époque de la dictature que nous avons connue avec le maréchal Mobutu. Et donc, voilà, messieurs, cette attitude-là, ces défis-là, par rapport, lorsqu'on gouverne par défi, c'est très, très dangereux. Et je considère même que c'est suicidaire pour les gouvernants. Parce que nous avons l'expérience des endroits où la population a pris ses responsabilités et les gouvernements n'ont pas résisté. Je souhaite que monsieur le ministre puisse changer ce langage-là.
Merci, Monsieur Franklin Tshiamala. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette situation, le gouvernement qui décide de relocaliser les FDLR à Irébou, à l'Équateur, tandis que la population, en fait, la société civile ainsi que la classe politique semblent s'y opposer.
Merci, mon frère Guy Maté, pour l'invitation. Sans pratiquement la sensibilité de la question, mais en même temps, je nous convie d'être froid lorsque nous nous engageons dans une réflexion visant à trouver la solution à un problème qui est d'intérêt national. Il est certes vrai que les FDLR ont commis beaucoup d'atrocités dans notre pays, principalement à l'est de notre pays, vol, viol, pillage des ressources naturelles. Ils sont à la base de la circulation des armes de guerre dans cette province. Ces éléments constituent en permanence un prétexte dont se sert l'armée rwandaise pour envahir notre pays à tout moment et perpétrer les pillages de nos ressources, j'en passe et de meilleurs. Maintenant, c'est à la suite de la guerre qui leur a été déclarée par notre gouvernement, des concerts avec ses partenaires, notamment la MONUSCO, une guerre qui leur a été déclarée après la déroute du M23 et qui vise notamment à éradiquer tous les groupes armés qui sont opérationnels à l'est de notre pays. C'est à la suite de cette guerre qui a été déclarée, disais-je, que ces éléments se sont engagés dans la reddition volontaire. Une reddition au terme de laquelle on a vu deux centaines ou plus d'éléments se rendre et s'offrir au désarmement pour après attendre leur rapatriement et leur insertion dans leur pays d'origine. Ceci étant, c'est donc une opération délicate lorsqu'on connaît que leur séjour volontaire, en fait leur séjour prolongé dans notre pays, a été un peu voulu aussi par leur pays d'origine qui, chaque fois qu'il est intervenu...
Qui ne facilitait pas leur retour.
Voilà. Alors maintenant, les gouvernements de notre pays, mus de l'expérience du passé, a résolu de les relocaliser loin de leur milieu d'origine, loin du milieu qu'ils connaissent le mieux, pour ôter d'abord, dans un premier temps, le prétexte au gouvernement rwandais d'envahir notre pays en permanence, au motif que ce groupe représente une menace à sa stabilité et à la sécurité du Rwanda. Première chose, on les éloigne, on les relocalise ailleurs, loin du milieu qu'ils connaissent le mieux, leur milieu d'origine, de manière à faciliter leur rapatriement dans leur pays, vous l'avez bien dit, ce sera des concerts avec les HCR et leur pays d'origine au regard du droit international humanitaire. Soit alors leur trouver un autre pays d'asile. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes dans un processus des résolutions d'une question qui a fait durer pendant longtemps l'insécurité dans notre pays et qui a vu des milliers de Congolais périr. Alors, maintenant, que les députés nationaux auxquels se joignent les animateurs de la société civile disent « pas dans notre province, c'est inquiétant ». C'est inquiétant dans un pays où la Constitution engage les citoyens congolais à forger un destin commun autour des valeurs, notamment des solidarités.
Pourquoi avoir choisi une province comme l'Équateur, une province avec une situation sécuritaire incertaine? Il y a la présence des réfugiés centrafricains, il y a les Congolais qui sont refoulés de Brazzaville, qui rentrent là-bas à l'Équateur, qui doivent être réinsérés, n'est-ce pas, dans cette province. Et voilà, il y a aussi des conflits des terres qui sont récurrents. Pourquoi vous choisissez une telle province?
Y a-t-il aujourd'hui une province de notre pays qui est à l'abri des problèmes sécuritaires? Nous sommes un État post-conflit. Nous sommes dans un processus de construction d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Et donc sur toute l'étendue de notre pays, le gouvernement fait face aux défis sécuritaires, principalement. Ça pouvait être la province de Mandoundou, ça pouvait être l'Équateur, ça pouvait être les Kassai. Mais le gouvernement a résolu, pour des raisons qui relèvent de la stratégie, comme le dit le ministre Mende, et donc pour des raisons qui relèvent de la stratégie sécuritaire, a résolu de les relocaliser momentanément à l'Équateur. C'est des gens qui sont
désarmés. Sachant bien que les ressortissants de l'Équateur ont eu une mauvaise expérience avec ces FDLR, parce qu'ils ont évoqué, n'est-ce pas, les passages des FDLR à l'entrée de l'AFDL.
J'en viens. C'est des gens désarmés. Est-ce qu'on note que c'est des gens désarmés et qui vont y être relocalisés sous la surveillance de notre armée et des éléments de la MONUSCO, en attendant leur identification en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine ou à défaut dans un pays d'asile. Nous sommes dans un processus de résolution d'une question délicate qui nous a privé la paix pendant longtemps sur toute l'étendue de notre pays. Alors maintenant, comme dans le préambule de notre Constitution.
Il s'agit d'une question délicate, mais rien ne vous empêche, n'est-ce pas, de communiquer par rapport à cette question.
Mais le gouvernement communique assez. Je suis soucieux simplement d'entendre un certain nombre de choses. Et je suis inquiet quand j'entends les députés nationaux, ceux qui jouissent du mandat national, dire « gardez-les ailleurs et non pas chez nous ». Mais au nom de quoi est-ce que nous pouvons avoir cette pareille attitude dès lors que nous nous sommes engagés au terme de notre Constitution de forger notre destin commun autour des valeurs, notamment la valeur des solidarités nationales. La solidarité nationale nous impose à tous de payer le prix, un prix, pour le retour de la paix dans notre pays. Merci. Et quel est le prix que nous, Équatoriens, nous nous engageons à payer?
Merci Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique, expert en questions militaires, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à M. Tchamala et à M. Moussa.
Voilà, et comment vous analysez cette situation, hein, le gouvernement qui décide par rapport au processus de désarmement des ex-combattants rwandais FDLR, le gouvernement décide de les relocaliser dans la province de l'Équateur, tandis que la société civile ainsi que la classe politique s'opposent à cette décision du gouvernement congolais.
Les réactions par rapport à ces décisions peuvent se comprendre. Hein. Permettez-moi de relever d'abord deux observations. La première, c'est l'approche unilatérale avec laquelle le gouvernement essaie de résoudre ce problème. Nous savons que les FDLR sont au Congo aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Toutes les mesures ou toutes les possibilités de trouver des solutions de manière cavalière ont été vouées à l'échec. Aujourd'hui, d'une manière assez surprise, on apprend que le gouvernement décide de pouvoir résoudre ces problèmes seul, alors que la problématique des FDLR relève d'une approche globale et régionale. Pour la simple raison que précédemment, on a vu que une fois qu'il y avait une action coordonnée de la communauté internationale, des acteurs régionaux du premier plan, ceux du Congo, pour résoudre le cas 1-23, il y a eu quand même quelques solutions qui ont été trouvées. Et les élèves sont là depuis des années. Les tentatives ont échoué. Et moi, je vois mal comment cette solution cavalière pourrait aboutir à une solution efficace. C'est que le gouvernement dit que voilà, c'est momentanément, ne pas perdre de vue que les FDLR, quand ils sont installés dans des camps des réfugiés à l'est du Congo, ils étaient censés y être réinstallés momentanément, mais ils y sont restés jusqu'à ce jour. Deuxième chose, il faut relever aussi le fait que le choix de la province et de l'Équateur ne paraît pas assez convaincant. Parce que, vous l'avez relevé tout à l'heure, la province est confrontée d'abord au problème de l'insécurité ou la situation en Centrafrique. La province, dans un passé récent, a été confrontée à l'insurrection des Inhélés. Et plus récemment, il y a eu beaucoup de conflits interethniques qui ont sémé beaucoup d'insécurité dans la province. Et ramener encore les FDLR dans cette région risque de poser beaucoup de suspicions et créer la tension, surtout que la situation politique aussi semble un peu délétère dans une province, disons-le, qui est quand même assez favorable, qui est plutôt sociologiquement plus proche de l'opposition que du pouvoir, qui fait que je pense que cette décision du gouvernement cache peut-être d'autres intentions politiques.
Oui, vous avez relevé deux aspects, à savoir l'approche unilatérale que semble privilégier le gouvernement, alors que ces problèmes, selon vous, relèvent d'une approche globale et régionale. Et le deuxième aspect, c'est les choix de la province de l'Équateur, qui, selon vous, ne paraît pas convaincant. Et est-ce que vous arrivez à comprendre la position du gouvernement congolais qui semble embarrassé, hein, dans ce sens que d'un côté, il doit se conformer, n'est-ce pas, au droit international avec toutes ses exigences, et de l'autre, écouter son opinion publique?
Oui, mais on peut comprendre le gouvernement qui doit se conformer au droit international. Et effectivement, dans le cadre de ce droit international et de plusieurs résolutions ou positions qui ont été prises sur le plan international, il a été demandé au gouvernement, dans la résolution de cette affaire, de coordonner les actions avec aussi les autres personnes intéressées. Aujourd'hui, on peut prendre les FDLR, les relocaliser à l'Équateur, par exemple, mais il faudrait à un certain moment les amener vers le Rwanda. Est-ce que le gouvernement va les prendre pour aller les parachuter ou qu'ils devraient initier des entretiens, des dialogues, de contact avec le Rwanda pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut relocaliser ou rapatrier ces FDLR. La deuxième question, il faut ne pas perdre de vue que pour le Rwanda, le problème des FDLR n'est pas un problème uniquement le long des frontières entre la RDC et le Rwanda. Et en 2010, je pense qu'il y a eu des engagements, même des accords entre le Rwanda et le Congo, où le Rwanda se permettait de poursuivre les FDLR partout où il se trouve au Congo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a crainte. Le Rwanda s'entière dans cette position ou ne se sent pas concerné par la prise de position du gouvernement, de pouvoir poursuivre les FDLR, parce que pour eux, où que se trouve les FDLR, elle constitue un danger pour le Rwanda. Et si le Rwanda décidait de pouvoir poursuivre ses combattants à l'intérieur du Congo, vous voyez que le rayon de sécurité risque de s'élargir de l'est vers l'intérieur. C'est compliqué. Complexifier encore la situation sécuritaire. De deux, ne pas perdre de vue que dans la province de l'Équateur, après les événements de Goma en novembre 2012, il y a eu deux régiments ex-NDP, donc supposés être la majorité Tutsi, qui ont été réinstallés dans cette province. Et imaginez une collision entre les Hutus, les FDLR et le bataillon qui se trouve sur place. Et dans une région qui connaît non seulement les problèmes sécuritaires, mais qui est aussi confrontée à des problèmes sociaux graves. Je pense que c'est une province qui a été oubliée dans le cadre du projet des 500 chantiers et de la modernisation. Et pour moi, ce n'est même pas une solution que les instruments juridiques internationaux permettent quand même de régler ces problèmes d'une façon beaucoup plus globale que unilatérale.
Merci Franklin Chamala. Vous avez suivi M. Fabien Mungunza et M. Jean-Jacques Wondo, M. Fabien Mungunza, qui s'insurge contre le fait que le gouvernement n'a pas mené d'études d'évaluation de l'impact de la présence de ces FDLR dans la province de l'Équateur. Et puis Jean-Jacques Wondo qui évoque des aspects, hein, l'approche unilatérale qui privilégie le gouvernement, qui n'est pas une bonne approche, parce que c'est une question qui relève de l'approche globale et régionale. Et puis les choix de la province de l'Équateur qui, selon lui, n'est pas convaincant.
Bon, je suis désolé de dire que le gouvernement de la République, qui dispose de toutes les ressources à sa portée, les ressources humaines, les ressources matérielles à sa portée, dire à ce gouvernement qui n'a pas mené d'études préalables avant la relocalisation de ces éléments FDLR dans la province orientale, c'est quand même assez osé. Assez osé.
Ça, c'est la société civile qui est sur le terrain.
Oui, mais le gouvernement, il est où? Il n'est pas au ciel. Je pense que le gouvernement de la République est le plus représenté et le plus opérationnel sur terrain par rapport aux organisations privées de quelque nature qu'elles soient. Deuxième préoccupation. Mais ce gouvernement de la République travaille sur ces problématiques FDLR, des concerts avec la MONUSCO et des concerts avec le Rwanda, tels que les instruments internationaux les prescrivent. D'où vient que le gouvernement de notre pays est en train de travailler dans une approche unilatérale? Vous savez que c'est à la suite de la déclaration de la guerre que le gouvernement de notre pays a fait aux groupes armés des concerts avec la MONUSCO, sa brigade internationale qui est opérationnelle. C'est à la suite de cette action que ces éléments commencent à se rendre un à un. Au nord Kivu, c'est près d'une centaine, et au sud Kivu, près d'une centaine également. C'est un début qu'il faut encourager. Mais maintenant que le gouvernement de notre pays se soit résolu de les amener ailleurs et de ne pas les cantonner là au niveau de la frontière et de les relocaliser momentanément ailleurs. Mais le gouvernement est mu de l'expérience passée. On les a cantonnés à la frontière de notre pays plusieurs fois. On a vu quelle réaction le gouvernement rwandais a eu.
Oui, Franklin Chamala, oui. En relocalisant ces FDLR, n'êtes-vous pas, en fait, le gouvernement n'est-il pas en train de transposer les conflits qui sévissaient dans l'est du pays à l'Équateur, hein, même si les FDLR sont éloignés des frontières? Vous avez suivi Jean-Jacques Wondo, le problème des FDLR, c'est pas un problème des frontières, même s'ils sont éloignés des frontières avec le Rwanda, ils continuent à constituer pour le Rwanda une menace, même s'ils sont à l'Équateur.
Entendons-nous bien. Les éléments qui sont relocalisés à l'Équateur, ce ne sont pas les éléments armés. Il faut qu'on s'entende bien. Ce sont les éléments qui se sont rendus et qui ont été désarmés et qui se sont inscrits en ce moment dans les processus des rapatriements volontaires et des réinsertions dans leur pays d'origine. Ce sont les éléments désarmés. Et alors, en quoi ces éléments-là constituent-ils une menace véritable?
Alors, lorsque ces éléments sont relocalisés dans une province où il y a des bataillons des ex-CNDP, vous ne pensez pas que vous mettez en place, n'est-ce pas, des conditions pour créer une situation d'insécurité dans
cette
province?
Mais on connaît les localités où sont déployés ces bataillons des ex-CNDP. On connaît les localités où ils sont déployés.
Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa.
Moi, c'est M. Basselé, que j'écris de Kinshasa. Le gouvernement de la République est toujours dit être à côté du peuple. La province de l'Équateur est actuellement la province la plus pauvre de la République, où les indicateurs sociaux et macroéconomiques sont plus criants. Pas d'école fiable, pas de route, pas de pont, et surtout pas d'électricité, même à Mbandaka, sa capitale. Au regard de ce qui précède, que le gouvernement n'ajoute pas encore d'autres souffrances à cette province par le cantonnement des ex-FDLR. Je prie donc au gouvernement d'avoir pitié de ces peuples qui connaissent une grande souffrance de ces derniers temps.
Voilà, la même question revient. Vous avez suivi Jean-Jacques Wondo, vous avez suivi M. Fabien Mungunza. On ne comprend pas pourquoi les choix sur la province de l'Équateur. Hein. Nous avons reçu beaucoup de réactions dans lesquelles les gens ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a opté pour cette province de l'Équateur qui connaît déjà beaucoup de problèmes.
Mais je pense que lorsque nous versons dans la passion, les procès d'intention viennent très vite. Ici donc, nous avons versé la passion, dans la passion, alors que nous sommes en face d'un problème qui doit être examiné dans la rationalité la plus totale. On me dit, le gouvernement est en train de transférer dans la province de l'Équateur des éléments armés. J'ai dit non, c'est des éléments qui se sont engagés dans un processus de désarmement. Ils sont désarmés à partir du nord et du sud Kivu, où ils se sont engagés dans la reddition. Les gouvernements transfèrent dans cette province-là des personnes qui ont été déjà désarmées et qui vont être ici amenées dans des espaces qui sont sous surveillance de nos forces armées et des éléments de la MONUSCO. Momentanément, en attendant que les négociations soient engagées avec leur pays, soit pour leur rapatriement, ou soit pour leur transfert dans un autre pays d'asile qui leur aura été choisi. Un point très. Mais alors, je repose la question que je posais au départ. Lorsque nous abordons cette question avec un certain sectarisme, où est-ce que nous mettons la valeur de solidarité nationale à laquelle notre constitution nous engage à souscrire, si nous voulons forger ensemble un destin commun? Où est-ce que nous la mettons? Quel prix chaque communauté est prêt à payer pour favoriser la construction d'une paix durable dans notre pays qui soit alors propice à la mise en œuvre d'un développement, un développement profitable à tout le monde?
Merci Fabien Munguza. Pourquoi avez-vous peur? Il y a l'expérience de 2010 à Kisenge au Katanga avec le PAREC. Le gouvernement avait fini par rapatrier au Rwanda les FDLR qui étaient cantonnés, n'est-ce pas, à Kisenge. Il ne s'est pas posé de problème. Pourquoi, quand il s'agit de l'Équateur, vous semblez, comme l'a dit Franklin Tchamala, avoir des préjugés?
Oui, merci monsieur le journaliste pour la question. Je voudrais inviter l'intervenant de tout à l'heure à plus de réalisme. Quand il parle de la présence effective de l'État complet sur toute l'étendue du territoire national, je voudrais lui rappeler que parmi les difficultés auxquelles nous devons faire face, il y a la faiblesse de l'autorité de l'État. C'est cette faiblesse de l'autorité de l'État qui a favorisé, n'est-ce pas, l'émergence de ce qu'il appelle des organisations privées. Ces organisations-là, les ONG, membres de la société civile, essayent de suppléer à la défaillance de l'État. Et donc, nous vivons de plus près les réalités du terrain par rapport à notre gouvernement. Je voudrais également dire, monsieur, que ce soit le Congo-Brazza en face, c'est un pays qui vient de connaître une longue période d'instabilité, une longue période de guerre, que ce soit de notre côté. Et donc la circulation d'armes est incontrôlée et elle est intense. Et donc on peut se procurer des armes en un rien de temps. Donc cet argumentaire-là, à mon avis, ne semble pas être debout.
Monsieur,
nous disons... Oui.
Monsieur Fabien,
nous disons que... Oui.
Oui, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Amos Bissima, oui, de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Vouloir délocaliser les FDLR à l'Équateur au lieu de les amener chez eux démontre combien la diplomatie de Kigali, qui qualifie ces derniers de génocidaires, continue à s'imposer au niveau de la région, voire de la communauté internationale. Tant que la RDC n'aura pas de diplomatie pouvant amener à un dialogue inter-rwandais, tout autre plat qu'on peut envisager est une distraction et une mascarade.
Monsieur Fabien Munguza.
Oui, je suis complètement d'accord avec cet intervenant, monsieur le journaliste. J'ai dit tout à l'heure que nous avons des compatriotes qui étaient dans les M23 qui sont au Rwanda et en Ouganda. On a demandé à notre pays de voter des lois d'amnistie pour qu'ils rentrent directement dans notre pays. Pourquoi on ne peut pas imposer aux Rwandais, au gouvernement rwandais, de négocier avec ses compatriotes qui sont dans notre pays et de rentrer ainsi directement dans leur pays? Et donc, quelque part, ce qui est évoqué par cet intervenant est tout à fait vrai. Nous avons des efforts à fournir pour que notre diplomatie puisse être au même niveau que celle des autres pays dans la région. Sinon, on va continuer à marcher sur nous comme on a pris l'habitude.
Oui,
on nous a chassés du Congo-Brazza, monsieur le journaliste. Mais où est le droit international? Où est cette communauté internationale? Le Congo-Brazza est partie prenante également à l'accord cadre d'Addis-Abeba, tout comme l'Angola. Mais ils sont en train de fouler
les termes de cet accord. Mais quand il s'agit de notre pays, nos autorités également ne savent pas défendre les intérêts de la population. On ne sait pas trop pourquoi, mais je crois que l'intervenant a tout à fait raison et je partage son point de vue.
Oui, vous demandez pourquoi on ne peut pas pousser le gouvernement rwandais à pouvoir négocier avec ces rebelles. Vous avez suivi le ministre Mende qui dit qu'il s'agit d'un processus. Bon, peut-être que ce processus-là aboutirait, n'est-ce pas, à ce que vous souhaitez, hein, que le gouvernement plutôt rwandais puisse créer les conditions qui vont permettre un dialogue inter-rwandais. C'est possible?
C'est difficile à entendre ce monsieur, monsieur le président de la République rwandaise, qui dit vouloir pourchasser tous les ennemis de son pays partout, et il a même promis de les tuer en plein jour. Comment on peut narguer sa propre population et narguer la communauté internationale de cette façon-là, et nous, notre gouvernement, va se plier à la volonté de cet homme-là? Non, nous disons qu'il est temps. Il est temps que la République démocratique du Congo reprenne sa position au soleil. Nous étions le pays qui dictait sa loi dans cette région. Comment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver à genoux comme ça? Donc nous demandons plutôt au gouvernement de travailler sur des stratégies en vue de renforcer notre diplomatie, plutôt que de chercher à venir créer des problèmes dans la province de l'Équateur. Donc nous disons que ces gens-là sont capables de pouvoir se réarmer en un rien de temps. Parce que les armes circulent assez facilement à travers nos frontières poreuses avec la République centrafricaine, avec la République du Congo, et donc on ne peut pas dire que parce qu'ils sont désarmés et qu'ils ne représentent pas de menace pour la province de l'Équateur et pour la République démocratique du Congo. Nous ne disons pas qu'ils aillent dans une autre province de ce pays. Nous disons qu'ils doivent être directement rapatriés au Rwanda parce que nous aimons le pays, nous considérons que nous faisons partie de ce pays et le sort de tous les pays nous lie.
Merci Jean-Jacques Mondou. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa, dans la commune de Lemba.
Pascal Kitenge, depuis la commune de Lemba à Kinshasa. La délocalisation des combattants FDLR, candidats à la démobilisation dans la province de l'Équateur, nous surprend et nous semble trop risqué, car une telle décision devait prendre en compte un certain nombre de paramètres sociopolitiques passés et présents qui pèsent encore sur l'envol de cette province. Nous citons par exemple la révolte des Eniélé, la présence des réfugiés centrafricains, le refoulé de Brazza, sans oublier la fragilité de l'unité politique dont souffre la dite province. À mon avis, étant de nature politico-militaire, la solution à ces problèmes ne pouvait être envisagée que soit pour Kitona, soit pour Kotakoli.
Voilà, Jean-Jacques Gondo, vous êtes expert en questions militaires. Est-ce que si ces combattants FDLR étaient envoyés dans des provinces où il y a des grandes bases militaires, est-ce que cela pourrait constituer une solution?
À mon avis, je ne pense pas que cela puisse constituer une solution à long terme ou durable. Et je suis satisfait de voir que dans sa première partie, l'auditeur a dit exactement ce que j'ai dit dans mon intervention préalable. C'est-à-dire en expliquant que, voilà, mon incompréhension sur le fait qu'on délocalise dans une province qui est confrontée à une situation sécuritaire, sociale, alarmante. Essayer de trouver la réponse au problème des FDLR sur le plan congolo-congolais, c'est une grave erreur d'analyse stratégique parce que on essaye de descendre d'un niveau plus bas pour résoudre un problème, comme je l'ai dit, qui doit être résolu sur un plan global. Et ne pas perdre de vue que les FDLR aujourd'hui constitue à la fois un problème qui peut être facilement résolu s'il y a cette volonté de l'ensemble des acteurs concernés, donc régionaux, nationaux et internationaux, pour pouvoir trouver la solution à cette problématique. D'autant plus que je vais donner quelques exemples. Quand on lit les différents rapports qui ont été bien établis, notamment des ONG de l'ONU et des autres ONG qui travaillent à l'Est, on se rend compte qu'aujourd'hui, les FDLR sont tout autant armés par le gouvernement congolais durant la guerre contre le M23. Les M23, un groupe de M23 qui s'appelle Mandevo, par exemple, s'est retrouvé en train de combattre aux côtés du M23
le M23 qui est une création du Rwanda parce qu'il a bénéficié de l'appui du Rwanda. Et de l'autre côté, on a les mêmes M23 qui s'est rapatrié chez eux au Rwanda, que le Rwanda a utilisé pour réinjecter dans le M23 et revenir attaquer le Congo. Donc, pour Kagame, le problème du FDLR va rester entier aussi longtemps que les FDLR ne seront jamais resteront actives au Congo, où qu'elles se trouvent. Donc, la solution réside vraiment à créer un cadre qui permettrait aux FDLR d'intégrer leur statut d'origine. Et cela demande un courage politique, mais aussi une mobilisation nationale de la population qui doit mettre la pression de la même manière qu'elle a mis la pression pour résoudre un peu le cas M23 après la chute de Goma, pour amener aussi bien les autorités nationales que les acteurs régionaux de pouvoir agir efficacement. Tant que les FDLR seront au Congo, ce n'est pas Tito Nani Kotakoli qui permettrait de résoudre ces problèmes qui restent quand même d'un ordre que je dis global, régional et systémique. Donc, et d'autant plus que les FDLR est aujourd'hui un fonds de commerce aussi pour certains acteurs politiques militaires qui profitent de l'FDLR pour faire des sous dans la région. Et la question qu'il faut se poser par rapport au FDLR, c'est plus un moyen qu'on utilise pour atteindre d'autres objectifs qui sont des objectifs mercantiles, l'exploitation du Congo. Et cela rapporte à ces acteurs qui sont au sommet des États concernés par cette situation.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, il n'y a pas que la société civile de l'Équateur qui s'oppose à cette décision du gouvernement. Il y a aussi les associations féminines du Nord Kivu qui l'ont dit. Hein, elles s'opposent au cantonnement des FDLR sur le territoire congolais. Ne pensez-vous pas qu'une série de communications devrait être initiée par le gouvernement à l'endroit, n'est-ce pas, de l'opinion afin de l'aider à cerner les contours de cette question?
Je suis tout à fait d'accord, et c'est là de notre même de la manière dont le gouvernement communique, pas seulement dans ce cas depuis que la situation de la crise est montée d'un cran à partir du M23. Et souvent une communication assez directe, une communication assez autoritaire, et parfois toutes les informations ne sont pas données. Et ce genre de communication doivent être menées par des experts, par des personnes qui maîtrisent la matière, pas par n'importe qui se dit, voilà, porte-parole pour pouvoir dire tout et n'importe quoi. Mais ça demande aussi une communication ciblée qui explique un peu les tenants et les aboutissants. Quand on parle de la relocalisation, je vous rappelle qu'en 2011, une tentative a échoué au Maniema, lorsqu'un major belge, qui est même le père du conseil de passage, le major Jean-Pierre Brenne, a essayé de négocier avec
un Merci Jean-Jacques Wondo, on vous a compris. On considère ça comme votre conclusion. Franklin Tchamala, vous pensez que le gouvernement a suffisamment communiqué par rapport à cette question?
Ben, je ne sais pas, nous sommes encore au début de l'amorce du processus. Et le gouvernement a livré déjà les prémices. Les prémices de l'intelligence qui est imprimée dans le processus qui est en marche. Maintenant, que les uns et les autres y mettent la passion, c'est ça qui complique l'équation. C'est une question qui doit être abordée avec la lucidité qui commande la rationalité, uniquement la rationalité.
Merci Fabien Mungunza, votre conclusion.
Oui, monsieur le journaliste, je crois que notre gouvernement n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que cette décision-là puisse être très participative. Et donc, pour l'instant, il y a des éléments qui lui échappaient. Comme je disais tout à l'heure, il n'a pas su mener une étude sérieuse pour se faire. Et donc, le gouvernement doit prendre en compte nos préoccupations et faire en sorte que ces FDLR soient plutôt relocalisés dans leur propre pays, le Rwanda, plutôt que dans la République démocratique du Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique. Merci à Alain Irung, à Kéline Pouté, qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci. Et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.